La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à tous, très heureux de partager ce moment avec vous cet après-midi dans le cadre de l'émission Prédication protestante sur Radio Présence, que je remercie de nous donner cet espace de parole. Aujourd'hui, c'est Luc Goyot, pasteur à l'église évangélique de Colomiers, qui s'adresse à vous. J'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et on va lire des versets 19 au verset 31. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. C'est une parabole que Jésus donne, ce n'est pas une histoire réelle qui s'est passée, mais Jésus donne cette parabole et il dit ceci. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père, Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père, Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Amen. Texte étonnant qui est à part. D'ailleurs, on ne le trouve que dans l'évangile de Luc, sur les 4 évangiles. Et qui nous parle de ce qui se passe après la mort. Vaste sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup de vidéos peuvent circuler sur Internet, sur ces fameuses personnes qui ont vu un couloir avec une lumière blanche, des gens qui ont été en état de mort clinique, etc. Beaucoup d'expériences partagées, difficiles de s'y retrouver. Et j'aimerais vous dire que la vérité se trouve dans la Bible. Et non pas dans ce que les gens peuvent raconter, des expériences qu'ils ont vécues. La vérité se trouve dans la Bible. Il y a tellement de théories avancées aujourd'hui concernant l'après-mort. Pour certains, c'est le néant, il n'y a plus rien. Pour d'autres, pour ceux qui sont sauvés, ils vont au paradis. Pour ceux qui ne sont pas sauvés, il n'y a plus rien. Pour d'autres, on se réincarnerait dans une autre personne ou un animal. Je mets des points de suspension. Il y a plusieurs théories en cours. Mais que nous dit la Bible et que nous dit Jésus au travers de ce texte? D'abord, nous notons que dans cette parabole, Jésus nous parle de deux lieux différents. Deux lieux où sont des personnes qui viennent de mourir, puisqu'il est précisé clairement dans la parabole que tous deux sont morts. Deux lieux. C'est une vision simpliste de l'au-delà, je l'admets. Et j'admets aussi que dans notre France bien cartésienne, nous n'aimons pas les visions simplistes. Pourtant, le message du Christ est clair. Il n'y a pas trois lieux, il n'y a pas quatre, il n'y en a pas un seul, il y en a deux. Deux lieux. Un lieu qui est décrit comme un lieu de paix, de tranquillité, où Lazare est décrit comme reposant sur le sein d'Abraham. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus tranquille et de plus paisible? Et puis un autre lieu. Un lieu de douleur, où la chaleur est omniprésente, et donc la soif qui va avec. Un lieu terrible, où on n'a pas envie d'aller, puisqu'on voit la réaction de cet homme riche, qui supplie Abraham d'envoyer Lazare vers ses frères, afin qu'eux ne viennent pas dans ce lieu. Donc d'un côté, un lieu très enviable, très appréciable. D'un autre côté, un lieu où personne ne devrait aller, tellement c'est difficile. On voit aussi que d'un côté, quelqu'un qui a bien vécu sur cette terre, qui a eu les richesses, etc., on voit qu'elles ne lui sont d'aucun secours. Ce ne sont pas elles qui déterminent ce qui va se passer dans l'au-delà. Et d'un autre côté, quelqu'un qui n'a rien eu sur cette terre, mais qui est consolé dans l'au-delà, bien sûr, ne tirons pas une conclusion hâtive de cette parabole qui serait fausse, à savoir les riches vont en enfer et les pauvres au paradis. Ce n'est pas comme cela que ça se passe, vous le comprenez bien. Mais nous notons plusieurs choses, c'est que lorsqu'on a toutes les richesses, on a tendance à ne pas se soucier de son avenir et de sa vie après la mort. Quand on a les richesses, on a tout ce qu'il faut, donc on a moins tendance à chercher Dieu et son secours. Vous connaissez la discussion qui a eu lieu entre les disciples et Jésus, après que Jésus ait une conversation avec un jeune homme riche qui voulait savoir comment on héritait de la vie éternelle et qui se vantait d'avoir observé toute la loi. Et quand Jésus lui a demandé de laisser ses biens pour les pauvres et de le suivre, il n'en a pas été capable. Et dans la discussion, les disciples vont dire à Jésus, mais il est difficile à un riche, impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus leur confirme en leur disant que c'est plus facile pour un chameau de passer dans le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il ajoute ensuite, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est vrai d'un autre côté aussi que la pauvreté nous démunit de tout et nous place dans un besoin extrême, et que souvent c'est dans ces situations de besoin extrême que l'homme se tourne vers Dieu. On peut y voir une tendance, mais absolument pas une loi. On peut aussi voir que, comme le dit Jésus dans la fin du chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, ceux qui auront vu les pauvres, ceux qui sont en prison, les malades et qui ne se seront pas occupés d'eux, n'entreront pas au paradis. Et on voit clairement que cet homme riche a eu Lazare devant sa porte pendant des années sans se soucier de lui. On fait juste des parallèles entre ces choses sans établir évidemment de cause à effet irréfutable. Je reviens à ces deux lieux que Jésus décrit et que nous appelons, nous, l'enfer et le paradis, même s'ils sont très peu souvent, ou pour ainsi dire pas nommés ainsi, dans la parole de Dieu. Rappelez-vous que un certain chanteur a composé ses paroles sur un air bien connu, On ira tous au paradis. Mais j'aimerais vous dire que c'est un grand mensonge et que si effectivement Dieu est amour, Dieu est aussi justice. Dieu n'a pas besoin de prouver son amour en mettant tous les hommes au paradis. Il a déjà prouvé son amour en donnant Jésus-Christ qui nous donne accès au paradis. Sauf que si on refuse et si on rejette cet accès pour entrer au paradis, est-ce Dieu qui a manqué d'amour envers nous ou est-ce nous qui avons manqué d'amour envers Dieu? Dieu a donné le moyen à l'homme d'être sauvé d'une manière parfaite en offrant son Fils Jésus-Christ, dans lequel nous devons simplement croire. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit « Celui qui croit ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Celui qui croit en quoi? Au fait que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque justement croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si ce moyen est refusé, la porte du paradis est fermée, nous devons le savoir. C'est un peu comme si vous êtes en train de vous noyer, un sauveteur vous jette une bouée, et vous refusez de prendre cette bouée, et vous vous noyez, pourra-t-on dire que le sauveteur, a manqué d'égard envers vous? Clairement, le paradis est ouvert pour tous les hommes, c'est la volonté de Dieu. Mais pour y entrer, il faut simplement venir à la croix et reconnaître que là, nous avons été pardonnés de tous nos péchés, lavés et purifiés de tous nos péchés. Car nous ne pouvons entrer au paradis. Le paradis, en fait, c'est plus qu'un lieu où on est sur le sein d'Abraham. C'est le lieu où on sera éternellement dans la présence de Dieu. Pas seulement comme vous pouvez l'être lorsque vous priez ici-bas sur cette terre et vous êtes encore séparé de Dieu en quelque sorte par votre nature pécheresse. Quand nous serons au ciel, nous aurons un nouveau corps, une nouvelle identité totalement changée, totalement esprit qui nous permettra d'être en communion parfaite avec Dieu. Et là, évidemment, il faudra qu'on soit lavé, purifié de nos péchés parce que si nous portons sur nous le péché, nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu. C'est une impossibilité totale. Donc accepter Jésus comme son sauveur, c'est accepter que je ne peux pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir d'abord avoir été lavé et purifié de mes péchés. Tout cela a été offert gratuitement. On n'a pas d'effort à faire, on a juste à croire et à obéir à l'enseignement de Jésus. On a tous, un jour ou l'autre, compris que cela pouvait être très douloureux d'avoir fait un mauvais choix. Pourquoi on l'a constaté? Parce qu'on en a payé les conséquences. Et on s'est dit, ce jour où j'ai choisi telle option, quelle bêtise j'ai faite, pourquoi je n'ai pas vu les choses venir? Pourquoi je n'ai pas anticipé? Et on s'en veut énormément. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas de plus lourde conséquence que de faire le choix de dire qu'il n'y a pas d'enfer et de paradis, que tout cela n'existe pas. Que de faire le choix de dire que Dieu est amour et que de toute façon, tout le monde ira au paradis, quoi qu'il fasse. Ce sont des choix lourds de conséquences qui ne tiennent pas compte de l'enseignement qui nous a été laissé dans la Bible et particulièrement dans les évangiles. La vie de notre âme est éternelle. Elle ne s'arrêtera pas le jour de notre mort, il y aura quelque chose après. Et c'est une chose à laquelle nous devons réfléchir, car notre vie ici-bas sur Terre, c'est une goutte d'eau, un petit grain de sable, comparé à l'éternité que nous sommes appelés à vivre. Et reconnaissons que nous passons tellement de temps à investir, à réfléchir pour cette goutte d'eau, ce petit temps que nous allons passer sur Terre, et nous passons tellement peu de temps à préparer notre éternité. Le riche, dans la parabole, a investi sur cette goutte d'eau. Il a bien profité de la vie, mais ça a été très court, comparé à l'éternité qu'il va vivre dans cet étang de feu. Connaissez-vous une conséquence plus lourde que celle-ci? Le choix du lieu où on va passer l'éternité, je ne crois pas qu'il y ait de conséquences plus lourdes, mes amis. En fait, l'enfer, c'est la vraie et la seule peine à perpétuité qui existe. Aujourd'hui, on prononce des peines à perpétuité. On sait que la plupart du temps, les détenus ne les font pas en entier. Et même s'ils les font en entier, ils en sont délivrés le jour de leur mort. Là, nous parlons de l'éternité, où il n'y aura pas de mort, où ce sera continu. Et là, on peut vraiment parler de peine à perpétuité. J'aimerais terminer cette méditation en vous disant que la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que nous passions l'éternité dans cet endroit de mort. Il ne le veut pas. La Bible dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Et c'est en cela qu'il est amour. Il n'a pas offert son fils Jésus pour quelques-uns d'entre nous seulement, pour telle race ou telle catégorie. Il a offert pour tous les hommes. Il a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour nous pardonner et nous laver de nos péchés, afin que nous puissions recevoir ce salut offert gratuitement, afin que nous puissions devenir capables de recevoir son esprit, de comprendre sa parole, et ainsi de nous diriger vers l'endroit éternel qu'il a préparé pour nous. Dans l'évangile de Jean, ces paroles de Jésus nous sont rapportées au chapitre 14. Il dit « Je vais vous préparer une place ». Jésus, qui est encore sur terre, dit à ses disciples « Je vais bientôt être au ciel et là-haut, je vous préparerai une place ». Et Jésus a prévu une place pour toi. Restera-t-elle vide? Fais le choix d'accepter Jésus comme ton sauveur. Fais le choix de reconnaître que tu as besoin d'être lavé et purifié de tes péchés. Et ainsi, tu pourras envisager de passer l'éternité au bon endroit. La vie en sa présence, dans le repos céleste, la félicité céleste, à quoi pouvons-nous aspirer de mieux? Quel choix vas-tu faire aujourd'hui? Continuer de croire à toutes ces théories, à celles même peut-être que tu t'es forgé toi-même par ta propre intelligence, ou vas-tu écouter le message de Jésus qui t'avertit et qui te montre comment faire pour être sauvé? Jésus veut te conduire dans la volonté de son Père céleste Et la volonté de son Père Céleste, c'est que tu le serves pendant cette vie ici-bas et que tu passes l'éternité avec lui. C'est son plan pour toi parce qu'il t'aime. Qui que tu sois, même toi qui peut-être insulte Dieu, toi peut-être qui es en colère après Dieu, toi peut-être qui es dans le doute le plus complet, toi peut-être qui te proclame athée et qui dit que Dieu ne peut pas exister. Qui que tu sois, il t'a aimé au point de donner ce qu'il avait de plus précieux pour te sauver de l'enfer, de cet endroit terrible où l'homme riche crie pour en être délivré. Dieu veut t'épargner de cet endroit. Ce choix que tu fais cet après-midi a des conséquences pour toute l'éternité, pour ton éternité. Ta vie après la mort. Et comme nous le montre cette parabole, une fois la mort passée et le lieu rejoint, il n'y a plus de possibilité d'aller d'un lieu à l'autre. C'est dit clairement dans la parabole. Ni d'avertir tes proches qui seront encore vivants. Alors maintenant, prends cette décision d'accepter Jésus comme ton sauveur. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour sa parole qui nous indique tout ce que nous devons savoir. À lui soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ces moments. Et bénis cette parole dans chacun des cœurs. Je te confie maintenant ce travail auprès des auditeurs. Que tu puisses vraiment les bénir au travers de cette parole. Que ton nom soit glorifié. Amen.
Sur terre s'achèvera ma vie, je m'envolerai vers la pure et céleste patrie, je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. À la fin de mon parcours, je m'envolerai. Laissant derrière toutes mes douleurs, je m'envolerai. Et mes pleurs, je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je m'envolerai. Je sais qu'un jour, à la fin de mon parcours, je prenant son essor, je m'envolerai et mon âme se riant de la mort, je m'envolerai, je m'envolerai vers Jésus, je qu'un jour Jésus. Alléluia.